Merci beaucoup pour ce parcours qui nous a permis de mesurer tout ce que le Seigneur est pour nous. Et nous voulons aussi, en réponse à ce qu'il est pour nous, nous ouvrir à sa parole. Et je vous invite à lire une prière de l'apôtre Paul en faveur des chrétiens, qui est à la fois un exemple et un programme. Et je vous invite donc à lire dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1, les versets 9 à 14. Depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, dit Paul aux chrétiens de Colosse, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient, et rendant grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Nous pourrions continuer, mais nous nous arrêtons là. Un père et sa fille de 5 ans discutent ensemble des questions d'anniversaire. Le père est du 27 mars, sa fille du 30 mars. Le père remarque « En fait, nous n'avons que 3 jours de différence pour nos anniversaires. » La petite se plante devant lui, le regarde du haut de ses 5 ans et lui dit « Oui, mais toi, tu as grandi bien plus vite. » Cela nous pose la question, comment grandissons-nous? Dans quel domaine notre vie se développe-t-elle? Quels sont les lieux où nous voyons du renouvellement? Et ceux où peut-être les choses stagnent un peu plus, ou sont peut-être même en panne? Quand on est étudiant, on a hâte de gravir les échelons vers les diplômes que l'on vise. Quand on est enfant, avant cela, on avait hâte d'ajouter un chiffre à son âge. Professionnellement, certains sont aussi très attentifs à l'évolution de leur carrière. Mais ce matin, avec cette prière de l'apôtre Paul, nous sommes invités à prendre à cœur sincèrement la question de notre croissance dans la foi. Comment grandissons-nous dans la foi? Désirons-nous vraiment? Avons-nous vraiment à cœur de faire des progrès dans notre vie avec Dieu? Je pense que sur cette question de la foi, nous sommes les uns et les autres à des stades différents. Certains parmi nous sont en recherche. Bienvenue pour continuer. Le Seigneur a dit « Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent ». D'autres viennent de découvrir la foi, de s'y ouvrir, où l'on retrouvait, et la question se pose, mais comment avancer? Soyez rassurés, le Seigneur dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est une parole d'un psaume, le psaume 32. Pour d'autres peut-être, après un temps de progrès, de découvertes fulgurantes, il semble que l'on n'avance plus autant. C'est l'étape des maturations, elles se font avec le temps. Certains, peut-être, doivent constater qu'ils ont perdu du terrain. D'autres, je l'espère, expérimentent que le Seigneur continue de les former, même après des années de marche chrétienne. En tout cas, quel que soit le point où nous en sommes, Paul place ici le souci d'une vie chrétienne renouvelée comme étant au centre des perspectives. Et nous voulons donc recevoir ce matin quelques-unes des orientations qu'il dessine pour nous. D'abord, relevons la nature du texte, de ce texte qui parle de vie renouvelée. C'est une prière. ou plutôt c'est le résumé de nombreuses prières. Paul n'a jamais rencontré les chrétiens de la ville de Colosse, il a été à 200 kilomètres environ à Éphèse pendant quelques années, mais dit-il, depuis que nous avons entendu parler de vous, nous prions Dieu pour vous. Et c'est en explicitant le contenu de ces prières qu'il parle du renouvellement qu'il souhaite pour la vie spirituelle de ses frères et de ses sœurs en la foi. Or, cette association entre la prière et la question du renouvellement est remarquable. Quand Paul priait pour les chrétiens, ce qu'il demandait concernait d'abord la vitalité et l'approfondissement de leur foi. C'était son souci. C'était ce qu'il pensait être important aux yeux de Dieu. Et nous, que demandons-nous lorsque nous prions? Lorsque nous prions pour d'autres ou lorsque nous prions pour nous-mêmes? Je ne sais pas ce qui se passe dans le secret de vos prières, mais supposons que 80% de nos demandes concernent notre santé, notre protection sur la route, notre carrière, nos réussites aux examens, l'acceptation de nos dossiers de prêt. Est-ce que cela ne reflète pas, à ce moment-là, un écart entre les priorités qui sont les nôtres et les priorités que Paul nous invite ici à avoir? Paul, dans ses prières, demandait vraiment que la vie spirituelle de ses frères et de ses sœurs soit affermie, soit éclairée, soit renouvelée et qu'elle progresse au travers de tout ce qu'il vivait. Et je pense que cette question de nos priorités, ça vaut la peine de nous la poser. Alors il ne faut pas non plus durcir l'antagonisme, hein. Le même Paul nous invite ailleurs à faire connaître à Dieu tous nos besoins. Par des prières et des supplications. Il le dit aux chrétiens de Philippe, Philippiens 4, verset 6. Il est donc légitime d'exposer à Dieu ce qui nous préoccupe, ce qui nous pèse. Mais est-ce là l'unique horizon de nos prières? Certainement pas. Paul veillait en toute situation à garder une place de choix dans ses prières au souci du renouvellement, de l'affermissement de la foi. Et il priait pour une vie spirituelle riche en fruits de toutes sortes qui honorent Dieu. Dis-moi pourquoi tu pries et je te dirai ce qui compte pour toi. C'est un premier coup de miroir de ce texte. Mais écoutons encore l'apôtre nous parler de ses prières. Il dit « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous ». En disant cela, Paul nous dit qu'il y a des choses qui mérite de figurer régulièrement dans ce que nous demandons à Dieu. Et incontestablement, parmi ces choses qui méritent d'être là régulièrement dans nos prières, il y a cette question du développement de notre foi, de nos progrès dans notre marche avec Dieu. Pourquoi prier régulièrement pour cela? Parce que c'est jour après jour que s'opère le renouvellement de la foi, que s'opèrent les progrès de la foi. Nous avons besoin de l'aide de Dieu régulièrement dans le suivi de ce que nous vivons. Nous avons besoin aussi de cultiver en nous le désir de progresser. Et la prière ici a son sens. Et c'est vrai que ça ne servirait pas à grand-chose de demander à Dieu de nous changer ou de demander à Dieu de nous sanctifier si nous ne renouvelons cette requête qu'une fois tous les 6 mois. L'exemple de Paul nous invite à inscrire donc le désir de grandir dans la foi au cœur de nos prières. Nos prières pour nous-mêmes, nos prières pour les autres. Et c'est aussi un canal qui nous permettra de recevoir de Dieu ce qui nous permettra d'avancer et de grandir. Veillons donc à cette dimension. Quels sont donc les axes forts de cette prière de Paul pour une vie renouvelée? Si on regarde l'ensemble de la prière, on distingue 2 axes qui se dessinent et ils sont complémentaires et indissociables. L'un concerne la connaissance de Dieu, l'autre concerne la pratique. Paul prie pour que les chrétiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu et qu'ils agissent deuxièmement d'une manière juste, fort de cette connaissance. La connaissance est donc la première requête de l'apôtre. Que vous soyez remplis, dit-il, de la connaissance de sa volonté. Et cette connaissance est liée au progrès de la foi, puisqu'à la fin de la prière, Paul parle de grandir par la connaissance de Dieu. C'est la deuxième partie du verset 10. Donc pour l'apôtre, il n'y a pas de croissance ni de progrès sans une connaissance réelle de Dieu et de sa volonté. Alors certains minimisent le rôle de la connaissance dans la foi. Les progrès, disent-ils, se font dans l'action. Les progrès, ça se mesure à l'engagement. Inutile de se remplir la tête. Ce qui compte, c'est d'avoir des mains actives, c'est d'avoir des pieds qui sont disponibles. Alors cet accent sur la pratique, Paul le fait sien, mais il refuse de l'opposer à la connaissance. Sa prière, c'est une connaissance qui engendre l'action. Car pour agir bien, il faut savoir ce qu'il convient de faire, savoir ce que Dieu nous demande. Pour motiver notre action, il faut aussi le rappel en nous de ce que Dieu attend de nous. Pour donner sens à notre action, il est important de comprendre dans quoi elle s'inscrit, pourquoi on l'a fait. Nous avons parlé cette semaine dans nos groupes de maison du fait que Dieu, lorsqu'il nous permet de le connaître, nous intègre dans son projet. Et c'est une magnifique dimension qu'il donne à notre vie. Nous sommes intégrés dans son projet. Cela suppose aussi une réflexion sur ce que Dieu veut, sur ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il désire accomplir. N'opposons donc jamais connaissance et action. Chacune a besoin de l'autre. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Que faut-il entendre par connaissance de sa volonté? Lorsque nous employons cette expression, c'est souvent en relation avec des décisions particulières à prendre. On veut connaître la volonté de Dieu pour telle orientation précise de notre vie, le choix d'un conjoint, le choix d'un métier, le choix d'une église. C'est bien de soumettre à Dieu nos choix concrets, mais c'est une erreur de limiter la volonté de Dieu à ces questions-là, à ces moments où nous sommes juste à la croisée des chemins. Car la volonté de Dieu, c'est tout simplement ce qui plaît à Dieu en toutes circonstances. Faire la volonté de Dieu, c'est prendre une bonne attitude tout autant que de faire le juste choix. C'est mettre en pratique ce que Dieu nous dit dans sa parole. C'est accepter les priorités qu'il nous indique pour notre vie de manière générale. C'est essayer de conformer notre manière de voir à celle que Dieu nous donne dans sa parole. Et cela concerne toute notre vie, nos grandes orientations, nos objectifs, la façon dont nous abordons les choses, les choix particuliers que nous faisons. Ça va même plus loin que notre petite vie à nous, car la volonté de Dieu, c'est aussi ce qu'il veut pour le monde, ce qu'il veut pour notre vie présente, pour la vie à venir, pour l'éternité, tout cela. On peut l'inclure dans cette connaissance de la volonté de Dieu. Et Paul nous invite donc à voir et à vouloir notre vie vraiment dans l'axe de ce que Dieu veut, dans l'axe de ce que Dieu fait, dans l'axe de ce que Dieu a fait connaître, de ce qu'il attend de nous également. Mais c'est dans le cadre d'une relation vivante qu'il le veut, parce qu'il parle aussi de grandir par la connaissance de Dieu lui-même, pas simplement la connaissance de sa volonté, mais aussi la connaissance de Dieu. Et c'est donc la relation avec Dieu nourrie par ce que Dieu nous a révélé de lui dans sa parole et dans ses œuvres que nous sommes appelés à connaître. Donc Paul nous invite à cultiver en nous le souci de la volonté de Dieu. Et on retrouve d'une certaine façon la requête du Notre Père. Jésus aussi nous a invités à prier et à dire « Que ta volonté soit faite ». Mais ici, il y a une orientation particulière. Paul demande que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Que ce souci de la volonté de Dieu vous habite, vous saisisse, qu'il ait une large place en vous. Et Paul précise que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est pas juste s'ouvrir à la volonté de Dieu de manière générale pour qu'advienne ce que Dieu a décidé qu'il doit advenir. Mais c'est garder présent, garder vivant en nous ce que nous savons de la volonté de Dieu. Très concrètement parlant, cela veut dire que, par exemple, si nous avons lu quelque chose dans la Bible, quelque chose qui exprime ce que Dieu veut ou ce que Dieu attend, nous allons cultiver cela en nous, le garder en nous, y réfléchir, prier dans ce sens et le garder au fond de notre cœur autant que possible pour l'appliquer dès que nous le pourrons. Rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Nous ne connaissons pas tout, bien sûr, mais nous sommes invités à en connaître de plus en plus. Et ce que nous connaissons, nous sommes invités à le faire vivre en nous, à le garder et à l'avoir au fond de nous avec une seule hâte, pouvoir le mettre en œuvre dès que nous le pourrons. C'est ça, être rempli de la connaissance de Dieu. Cette mise en œuvre, elle demandera aussi de la réflexion. Paul nous invite à le faire en toute sagesse, c'est-à-dire en discernant la juste manière de l'appliquer, et aussi en toute intelligence, c'est-à-dire en discernant le sens de cette volonté de Dieu, pour pouvoir l'intégrer, y adhérer vraiment, qu'elle ne soit pas juste quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, qui nous serait surimposé. Et il nous rappelle que pour cela, nous pouvons demander le secours de l'Esprit de Dieu, et c'est pourquoi il parle de sagesse et d'intelligence spirituelle, c'est-à-dire donnée, renouvelée par le Saint-Esprit. Et pour moi, le mot clé, le mot fort, est ce mot rempli, que vous soyez rempli de la connaissance de sa volonté. Moi, je me rends compte que si facilement j'oublie ce que j'ai découvert, j'oublie ce que j'ai reçu dans la parole de Dieu. Et la question, c'est vraiment comment garder ça vivant pour qu'on en soit rempli. Parce qu'une des clés, c'est certainement de cultiver le désir de mettre en œuvre. Pas juste savoir ce que Dieu attend et puis voir ce que ça va donner. Mais être désireux, comme j'ai dit tout à l'heure, être un peu impatient de mettre en œuvre ce que je sais, ce que j'ai découvert. Être désireux, être impatient d'obéir à Dieu, de voir comment je peux transformer en action ce que j'ai reçu, ce que j'ai découvert de lui. C'est avec cette motivation-là que nous pourrons être remplis de cette connaissance de la volonté de Dieu, de telle sorte que ça nous habite et de telle sorte que cela nous conduise aussi à l'action. Car c'est bien de cela dont il est question. Le but, c'est que cette volonté de Dieu qui nous remplit se prolonge en motivation et en action. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Paul envisage ce prolongement, il ne saute pas d'un coup de la connaissance à la pratique. Mais il propose d'abord des motivations pour la pratique. Il dit le but de tout cela, que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, afin que, dit-il, vous marchiez d'une manière digne de Dieu pour lui être agréable en toutes choses. On a là incontestablement une motivation relationnelle, une motivation d'amour très forte, très élevée. Le deuxième terme que Paul emploie est très clairement orienté par l'amour. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté pour lui être entièrement agréable, pour lui faire plaisir en toute chose. Cette motivation de faire plaisir est certainement la plus forte, la plus positive, celle qui permet d'aller le plus loin avec le plus de fermeté et de persévérance. Quand on est vraiment habité par le désir de faire plaisir à quelqu'un, on peut aller très loin et on peut aller avec joie et en persévérant. Et c'est pourquoi c'est important de cultiver cette motivation aussi dans notre foi. Notre but vraiment, c'est de faire plaisir à Dieu en toute chose. Et ça peut vraiment nous conduire à l'action, à la persévérance et avec un bon état d'esprit. Faire plaisir à Dieu. Mais Paul nous propose également une autre motivation. Et il nous invite à avoir à cœur de marcher d'une manière digne de Dieu, afin de marcher, de vivre d'une manière digne du Seigneur. Et là, vraiment, nous sommes surpris. Digne de Dieu. Chercher à être digne de quelqu'un, c'est vouloir être à la hauteur de cette personne. C'est vouloir être à la hauteur de ses attentes. Et même l'idée un petit peu de mériter son approbation. Peut-on seulement envisager cela par rapport à Dieu ? Est-ce que ça ne va pas être soit trop présomptueux si on imagine qu'on peut l'être, ou alors trop écrasant si on imagine qu'on doit l'être ? Marcher d'une manière digne de Dieu. Paul pourtant emploie l'expression ici, et ce n'est pas le seul endroit. Et je crois pour bien la saisir, il faut d'abord la replacer dans le schéma d'ensemble de sa pensée. Personne, en tout cas nous le savons, personne par sa manière de vivre ne peut gagner ou mériter l'approbation de Dieu, au sens absolu du terme. Cette approbation qui permettrait à Dieu de nous déclarer justes et de nous sauver. Ça, nous savons que c'est mission impossible. Parce que le mal est là en nous, nous sommes en échec par rapport à ce que Dieu attend, par rapport à ce que nous devrions être, de bien des manières, de plusieurs façons. Pour que Dieu puisse nous accepter, il faut une autre base que celle de ce que nous pouvons mériter devant lui. Il faut sa grâce, il faut son pardon. Et ces choses nous sont acquises par l'œuvre de Jésus-Christ, comme nous l'avons chanté. Et c'est ce que le Christ a fait pour nous, qui vient couvrir notre indignité. C'est vraiment cela, la base de la relation. La base, le socle, la règle de toute acceptation par Dieu, c'est la grâce et rien que la grâce. Dieu le sait, nous le savons aussi. Mais sur cette base et dans ce cadre, Dieu a des attentes par rapport à nous. Elles sont certainement mesurées, proportionnées aux forces qu'il veut nous donner. Et il est juste pour nous de chercher vraiment et de désirer être à la hauteur de ces attentes de Dieu. Et de vouloir lui offrir cela d'une certaine façon en ayant tout reçu par grâce. Et il me semble que c'est cela ce que Paul envisage ici. Que nous cultivions le désir d'offrir à Dieu une obéissance consistante, à la hauteur de ses attentes, même si on sait qu'il faudra toujours beaucoup de grâce de Dieu pour produire, pour accompagner et même pour accepter ce que nous offrons. Alors bien sûr, ça donne un petit peu l'image du petit soldat qui veut bien faire, mais c'est aussi une juste manière de dire à Dieu que nous voulons donner vraiment une réponse consistante à son amour, maintenant que nous sommes ses enfants, par grâce et par grâce seule. On ne sait pas si on y arrivera, mais on a ce désir chevillé au corps, avec ce souci de prendre au sérieux le Seigneur et ses attentes, et de ne pas tout diluer dans ce fait qu'on ne peut rien mériter devant Dieu. Voilà le but que nous sommes appelés à poursuivre. Avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui fasse plaisir à tous égards. Il veut dire nous demander régulièrement qu'est-ce que le Seigneur aimerait que je fasse, voudrait que je fasse. Qu'est-ce qu'est une conduite digne de lui dans ce que je vis aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce qui, au contraire, le déshonorerait, serait indigne de lui? Ces questions simples, si nous les posons à bon escient, elles pourront vraiment changer notre manière de vivre, notre façon de travailler, nos relations avec ceux qui nous sont proches, avec nos voisins. Elle aura certainement une incidence aussi sur nos loisirs, nos emplois du temps, nos lectures, les films que nous regardons, l'usage que nous faisons de notre argent. Avoir le souci de faire plaisir à Dieu, d'avoir une conduite digne de lui. Le résultat concret de ces dispositions, de ces motivations, Paul l'exprime par quatre verbes, quatre participes dans le texte original. Le premier est que nous porterons comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Portant des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes, est-il dit au verset 10. Alors Paul laisse ouvert. Il laisse ouvert ce que peuvent être ses œuvres. Il ne prescrit rien à cet endroit-là, car ses œuvres dépendent d'un chrétien à l'autre, dépendent des circonstances, d'une situation à l'autre. Mais si nous cultivons ces dispositions, de demander à Dieu de nous aider vraiment à vivre selon lui et avec ses motivations de lui faire plaisir, si nous cultivons vraiment ces dispositions régulièrement en nous, nous découvrirons qu'elles engendreront des fruits concrets dans notre vie. Et quand on parle de fruits dans la Bible, c'est toujours le résultat concret, conjoint, de l'action de Dieu et de notre action à nous. Autrement dit, ce que nous découvrirons, c'est Dieu à l'œuvre en nous. Il sera fidèle au rendez-vous de notre désir de l'honorer. Et c'est pourquoi il y aura des fruits qui pourront se développer dans notre vie. Le deuxième résultat concret, c'est que nous grandirons par la connaissance de Dieu, portant toutes sortes de fruits, de bons fruits, par toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant ou grandissant par la connaissance de Dieu, nous dit Paul au verset 10. Nous serons affectés par ce qui se passera, et cela nous transformera. Et ça rappelle que nous sommes des personnes, nous sommes des organismes en croissance, nous ne sommes pas comme des machines qui se contentent d'exécuter ce pour quoi elles sont conçues. Ce que nous faisons, ce que nous choisissons, si vraiment c'est intégré, cela vient nous transformer nous-mêmes. Cela vient nous construire nous-mêmes. Autrement dit, développer cette dynamique de motivation et d'action va non seulement avoir des résultats ponctuels par nos actes, mais aussi des résultats durables de l'ordre d'une croissance dans notre foi. Et c'est toujours encourageant de pouvoir se dire, là je crois vraiment que j'ai grandi. Là je crois que j'ai vraiment grandi. Hein. Vous savez, les petits-enfants, hein, quand ils passent de 2-3 cm de plus, c'est vraiment chouette, c'est une victoire. Ben, qu'on ait un petit peu cet état d'esprit aussi, dire, Seigneur, là, merci parce que j'ai grandi, tu m'as fait grandir. Et c'est aussi, d'une certaine façon, une promesse, un résultat qui nous est proposé. Le troisième résultat concret, c'est que nous serons fortifiés pour pouvoir faire preuve d'endurance et de persévérance. Verset 11, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Paul souligne donc ici très clairement la présence et l'action de Dieu. Et il y a là une promesse d'une certaine façon que nous pouvons saisir. Si nous cherchons à vivre selon ce que Dieu veut pour nous, il s'impliquera lui aussi avec nous pour nous donner la force, pour nous donner les ressources d'agir et de persévérer. Et Paul a soin de souligner que ce soutien nous sera donné en toute situation. Il dit « fortifiez à tous égards, en toute patience et persévérance ». N'ayons donc pas peur que notre situation échappe aux ressources de Dieu. N'ayons pas peur non plus, si nous sommes au début ou en chemin de notre foi, de ne pas arriver au bout. Les ressources sont en Dieu. Avançons pas à pas et nous recevrons la force pour chaque pas. Et puis le dernier résultat est celui d'une marche dans la joie et la reconnaissance. Alors on a un petit peu de mal, quand on lit le texte, à déterminer exactement le lien qui est fait dans ce texte. Car le chant de reconnaissance qui commence au verset 12, qui dit « Rendez grâce à Dieu le Père », etc., ce chant devient un ensemble en lui-même. Mais il faut savoir que ce chant est aussi dans la continuité de la prière de Paul. Et il dit donc vous pourrez marcher de manière agréable à Dieu, portant toutes sortes de fruits, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, et rendant grâce au Dieu le Père, à Dieu le Père. Vous voyez, d'une certaine façon, c'est dit dans la continuité. Et cela nous rappelle que vivre selon Dieu, faire ce qui lui est agréable, être transformé, être fortifié, ne nous amène pas à nous croire forts et autonomes. Mais au contraire, cela nous renvoie encore plus, avec reconnaissance, avec une reconnaissance infinie, à ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. C'est lui qui nous a rendus capables d'avoir part à son héritage et à sa vie. C'est lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce que nous découvrons avec Dieu au fil de notre marche nous renvoie éblouis au fondement de tout, à l'œuvre de Jésus sans laquelle jamais nous ne serions là. Et c'est pourquoi la marche se déroule aussi dans la joie, dans la reconnaissance. Alors comment connaître et vérifier tout cela? En priant cette prière, en la faisant nôtre dans ce que nous vivons. Ayons à cœur d'être remplis de la connaissance de sa volonté et du désir de lui faire plaisir. Prenons au sérieux cet objectif. Intégrons-le dans notre vie de chaque jour. Et n'oublions pas de noter ce qui se passera alors. Je pense que nous serons surpris et reconnaissants. Amen.